S'en sortir. Une émission sur les violences sexistes et sexuelles. Chaque deuxième dimanche du mois, sur Radio U.
Bonjour à tous. C'est avec un grand plaisir que je vous retrouve après une pause estivale un peu étirée, je vous l'accorde. Cette émission sera un peu spéciale pour moi et je vous explique pourquoi tout à l'heure. 4 mois se sont écoulés depuis la dernière de S'en sortir. Et 4 mois, c'est long et c'est court à la fois. Il s'en est passé des choses en 4 mois. Il y a eu une dissolution, des élections, un premier puis un deuxième tour et on se demande bien pourquoi aujourd'hui, vu le Premier ministre qui a été nommé et vu aussi le gouvernement qu'il a formé hier soir. Tout ce bordel pour ça. Eh ouais, on aurait aussi bien pu rester sans gouvernement, comme en Belgique, ou garder celui d'avant. Ça n'aurait pas changé grand-chose. Ah si, ce qui a changé, c'est que la droite dure et le RN occupent encore plus de place et peut exercer encore plus de pouvoir et de pression. Ah, c'était ça la ruse en fait. Eh oui, créer tout un bordel, faire croire aux électeurs qu'ils ont la possibilité et le droit de choisir, les inciter à aller voter en masse pour finalement ignorer leur vote et faire plus de place à la droite de la droite. Et au RN, bien sûr. Un très beau tour de passe-passe. Je suis pas vraiment complotiste, mais là, il y a quand même un truc qui m'échappe sérieusement. À part le feuilleton des élections, que s'est-il encore passé pendant tout cet été? Eh ben, il y a encore eu des enfants morts à Gaza. Pendant les JO, il y a eu le Tour de France, les Jeux paralympiques, et encore des morts et des mortes à Gaza. Guillaume Meurice, viré de France Inter, et Aymeric Lomprey, solidaire. Il y a eu aussi Ciotti, traître à l'image des siens. Il y a eu Philippe Catherine, peint en bleu, un nouvel alien, et pour l'avoir vu, je vous dis qu'il n'y a rien de nouveau dans l'espace. Ces bestioles, elles continuent de se reproduire à tout va et de becquer tout ce qui bouge de façon dégueulasse, sans mâcher et en bavant pire qu'un boxeur. En plus, leur bave, elle est dangereuse. C'est encore pire que de la soude, ça fait des trous dans la carlingue des vaisseaux spatiaux. C'est hyper dangereux en vrai. Bref, on sait déjà qu'il y aura plein d'autres aliens. 28 femmes ont été tuées par leurs compagnons ou ex-compagnons entre juillet et août. Et ça, c'était pas les aliens de l'espace qui l'ont fait, non. Sans compter toutes les femmes qui ont disparu ou qui se suicident. Ouh là là, Sandrine, attention, là tu sombres dans le féminisme outrancier, c'est moche. Il y a eu aussi le procès pour viol d'une de mes proches. Et ça, ça vaut le coup de le citer car c'est suffisamment rare d'en arriver jusque-là. Il a dû se passer encore plein de trucs pendant l'été, mais j'ai pas dû faire gaffe. Par contre, je vous dois une explication. Pourquoi S'en sortir va se mettre en sommeil pendant un moment? Eh bien, parce que créer des podcasts comme ça, de A à Z, ça prend du temps. Énormément de temps. Il faut trouver des intervenants, créer des contacts, solliciter, écrire les émissions, écrire les questions aux invités, trouver des dates qui concorde pour toutes et tous, enregistrer, trouver les musiques qui vont bien, faire des montages audio, et ça je vous jure que ça prend des plombes. Des heures de montage face à l'ordi. Bref, je m'en plains pas, j'adore faire ça, seulement voilà, je pars vers des projets qui vont me prendre beaucoup de temps. Mais la bonne nouvelle, c'est que je réserve un espace pour la radio dans ce nouveau projet. Et je vous en dirai plus lorsque ce sera plus abouti. Mais en tout cas, plusieurs mois vont se passer avant que je ne puisse me trouver assise devant un micro. Mais ça, c'est anecdotique. Show must go on. On se retrouvera ailleurs, j'en suis sûre. Dans l'émission d'aujourd'hui, je laisse la parole à Marion, qui nous fait le récit de 10 années de sa vie. 10 années, mises entre parenthèses, suite au viol dont elle a été victime. Attention, trigger warning. Certains mots ou passages pourraient heurter la sensibilité. Un grand merci à elle pour ce témoignage que j'ai volontairement scindé en 2 parties pour respirer entre deux ou faire autre chose, boire un thé, faire du ménage ou aller aux toilettes. Bref, c'est le condensé d'une expérience traumatisante qui peut aider d'autres personnes ou plus simplement permettre de se mettre dans la peau d'une jeune fille qui traverse une telle expérience. Cela peut aider aussi à comprendre les répercussions sur le long terme. Je vous rassure quand même, Marion va bien aujourd'hui et même si l'empreinte de ces événements restera imprimée en elle pour toujours, elle est pleine de projets, d'énergie, de force, d'empathie et de migraines. Bonne écoute.
Amori passati e ho fatto delle scelte per i miei amori, amori futuri.
Tout ça pour ça. Mais faut pas déconner, on a toutes été violées, non?
Mais faut pas déconner.
On a toutes été violées, non? On a toutes été violées, non?
On a toutes été violées, non? C'est ce que nous dit une femme sur le marché de Carré, lors d'un micro-trottoir autour de la journée internationale de lutte pour les droits des femmes en mars dernier. Pas féministe, la nana. Simplement femme, la cinquantaine, les yeux en face des trous. Force est de constater que je suis d'accord avec elle. Parmi mes amis, copines, parentes, avec qui j'ai pu évoquer le viol, je compte sur les doigts de mes deux mains celles qui disent ne pas l'avoir été. Nos agresseurs, la plupart du temps, ce sont nos papas, nos papis, nos tontons, nos cousins, nos frangins. Ce sont très souvent nos amants, nos maris, nos potes, nos bons potes, nos très bons potes. Ce sont nos collègues, nos patrons. Il arrive aussi que ce soit des inconnus, mais c'est plus rare. Quant aux réparations judiciaires et aux procès, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on n'est pas nombreux à y avoir droit. En fait, je ne connais que moi qui suis allée au bout, c'est-à-dire devant une cour d'assises, avec pour finir une condamnation de mon violeur. Je fais donc partie des bien rares et bien heureuses victimes qui ont eu l'immense honneur de voir leurs paroles légitimées après plus de 10 années de mise en doute. 10 années, c'est la durée moyenne d'une procédure pour viol, de la plainte jusqu'au procès. 1%, c'est le nombre de victimes qui, à l'époque où je porte plainte, voient leur agresseur condamné. Le pourcentage aujourd'hui, 0,6%. Oui, oui. À ce stade, vous vous dites sûrement « Waouh ! Mais alors Marion, dis-nous tout. Comment as-tu fait pour arriver au bout ?» Eh bien, ma recette, la voilà. Une bonne dose de hasard, une grosse poignée de classe sociale saupoudrée d'un peu de chance et de beaucoup de persévérance. Rien à voir avec ce qu'on imagine quand on pense au concept de justice. J'avais tout juste 17 ans quand j'ai été violée, 18 quand j'ai porté plainte, 27 lors du premier procès, 28 pour l'appel. Aujourd'hui, j'en ai 37 et j'accueille des femmes victimes de violences depuis quasiment la fin de cette histoire, bénévolement dans des associations, avec entre autres cette expérience-là, celle de mon parcours de victime face à la justice française. Le viol. C'est l'été et je suis invitée au mariage d'un lointain cousin. Il s'appelle Édouard, je le connais peu. Je ne suis pas à fond sur les regroupements familiaux, mais là, je décide de suivre mes parents. Ça se passe en Normandie, c'est mon premier mariage tradi, ce sera mon dernier aussi. Robe blanche, église, curé, vœux d'éternité, vous pouvez embrasser la mariée.
Grainerie, lancée de bouquet, corniste, monsieur pratique la chasse à cour. Mairie, photo des mariés avec leur invité.
Salle des fêtes, vin d'honneur, traiteur, apéritif, champagne, entrée, vin blanc.
Plat de résistance, vin rouge, fromage, vin cuit, dessert.
Digestif, quelques pétards en semi-scrud, jarretière, bière, jeu graveleux, piste de danse, DJ, gimme gimme a man after midnight, un jour important quoi. Le lendemain de la noce en fin de journée, l'heureux époux propose de nous emmener, une cousine et moi, dans son bistrot préféré. Il nous le glisse au passage. La soirée, il préférerait que personne ne sache qu'on la passe tous les trois. Tu m'étonnes. Le gars vient à peine de se marier. Le bobard est tout trouvé. Édouard nous emmène chez des amis de la cousine Jenny. Il viendra nous chercher vers minuit. Nous, ça nous branche pas mal et ce petit mensonge nous fait même plutôt marrer. Je roule un pétard, Édouard démarre, musique à fond. Elle descendait de la montagne en chantant une chanson paillarde, une chanson de collégien. Nous voici au bar, Jenny, 16 ans, moi 17, à siroter des gin tonic à l'œil en compagnie de ce cousin qui en a 30. Alors les filles, dites-moi tout, vous avez un petit ami ? Ah oui ! Et tiens, reprends un verre, c'est moi qui paye. Et vous êtes fidèle ? Ah oui ? Oh, c'est dommage ça ! Mais reprends un verre, je te dis, c'est moi qui paye. Mais si, c'est dommage à votre âge. Allez, on reprend un verre, c'est moi qui paye. Puis Édouard doit s'absenter. Mais il ne veut pas nous ramener. Il va vite revenir pour continuer cette super soirée. En plus, des amis à lui sont arrivés. En attendant, il nous laisse là, Jenny et moi. Seule consigne aux serveuses, nous resservir. Quand il est de retour quelques heures plus tard, je suis en train de tenir les cheveux poisseux de Jenny qui gerbe tripes et boyaux dans les WC. Moi-même, je suis totalement bourrée. Mais Édouard ne veut pas nous ramener. Édouard, ce soir, il veut fêter. Quand le bar va fermer, c'est enfin l'heure de rentrer. Je grimpe devant à ses côtés. Derrière, Jenny comate. De la main gauche, Édouard conduit son gros 4x4. De l'autre, il délace le cordon de mon pantalon en coton et glisse ses doigts sous ma culotte. Il me doit. À ce moment-là, je pense à Jenny qui me voit peut-être de là où elle est. J'ai honte et je suis tétanisée. Ma première relation sexuelle, c'était il y a à peine un mois. Le garçon s'appelle Siméon, il a des dreadlocks, les yeux bleus et je le trouve beau comme un dieu. Je suis chanceuse sur ce coup-là. En France, une femme sur six fait son entrée dans la sexualité par un rapport non consenti. On arrive à destination, chez les parents d'Edouard. C'est là qu'on dort, Jenny et moi. Il ouvre ma portière, me porte jusqu'au jardin et s'allonge avec moi dans les bras. On est quasiment au pied de la maison. Je crache un petit nom. À côté de nous, une vierge en plâtre. Et à l'intérieur, une dizaine d'invités qui dorment à poings fermés. Il m'attrape la tête pour que je le suce. C'est ma première fellation. Puis je me retrouve assise sur lui à califourchon, inerte sur son sexe. T'aimes ça, salope ? Maintenant, je suis sur le dos, lui est sur moi. C'est très rapide, je crois. À peine 5 minutes entre la pipe, la pénétration et l'éjaculation. Tout ça pour ça. En se levant, il me dit que la prochaine fois, il prendra une capote. Et ça y est ! La petite graine de la culpabilité est bien semée. Je me dis qu'il croit que j'ai aimé. Ma cousine, restée dans le 4x4, débarque. Lui s'en va. Je suis en pleurs. Jenny m'emmène dans la chambre du frère d'Edouard, Tobia, qui habite toujours là. Au réveil, le matin, en plus d'une pilule du lendemain, le frangin me fait promettre que je ne dirai rien. Il est midi quand je descends. À part Edouard et sa femme qui profitent à coup sûr de leurs premières heures de vie maritale, toute la famille est là, attablée sur la terrasse. Le petit Théa, qui fait ses premiers pas, trouve ma culotte non loin de la Vierge. Il la brandit et babille, pendant que moi je balbutie. Elle a dû tomber de mon sac en arrivant. Éclat de rire général. Tout va bien. Personne ne se doute de rien. J'appelle mon amie Lénaïgue. Toutes les deux, on se dit tout. Alors là, comme d'habitude, je lui dis tout. Et surtout, je lui fais jurer que ça reste entre nous. Faut pas que les parents sachent. Puis c'est l'heure du départ. Sur le retour, on s'arrête au Mont-Saint-Michel et je me pisse dessus. Assez vite, j'essaye de contacter ce connard, pour qu'il sache, pour qu'il entende que vraiment ce qu'il a fait, c'est pas bien, que je l'ai peut-être pas dit assez fort, mais que je n'étais pas d'accord. Je lui téléphone plusieurs fois, mais il ne répond pas. Je passe par Tobia. Tu lui diras, hein, que c'est pas bien ce qu'il a fait, que moi je voulais pas, que je l'ai peut-être pas dit assez fort, mais que j'étais pas d'accord. Sans réponse ni excuse, je reprends ma vie et entre en terminale. Mon effondrement commence gentiment. Au lycée, j'ai une belle bande d'amis, que des meufs. Parmi elles, en plus de Lénaïgue, il y a Mariam et Nora. Ces trois-là, elles sont tout pour moi. Je suis même un peu amoureuse de Nora. Nos activités préférées ? Sortir et se défoncer. À la récré de 10h, à la pause de midi, à celle de 16, et puis après les cours. On se met un peu à dealer, histoire d'avoir toujours à fumer. Le week-end, c'est concert, on part en stop, déjà à moitié bourré, et si possible, on prend des trucs, Taz, Speed, MD, payés avec l'argent chouré aux parents. Les secrets entre nous quatre n'existent pas, elles savent ce qui m'est arrivé en août dernier. Et les mois passent comme ça. Un jour, chez moi, je fouille des tiroirs à la recherche de je ne sais quoi. Et là, je tombe nez à nez avec Édouard et sa femme. Photo de plein pied, en costume de mariée. Au dos, un mot tout cru, merci pour votre venue. V'là la claque, y a tout qui remonte, mais je ne déborde pas, je remets le couvercle. Puis un soir, ma mère m'apprend que le frère d'Edouard est en prison. Ah bon ? Il a percuté deux femmes à 160 km/h avec 1,6 g d'alcool dans le sang. Elles s'appelaient Fatima et Samira, elles avaient 22 et 23 ans, elles étaient sœurs, elles sont mortes sur le coup. Ça me fait vriller. J'ai bientôt 18 ans, j'appelle un oncle dont je suis proche et je lui dis tout. Le temps de la procédure. Mon oncle Max me fait traverser la France en train pour venir chez lui en Picardie. Il pleure quand je lui raconte encore ce qu'il s'est passé. Je comprends que c'est du sérieux. C'est rare de voir un adulte pleurer. Mon témoignage me dépasse déjà un peu. Je pressens que ce viol, ce n'est plus seulement à moi qu'il appartient. À ce moment-là, je suis en boucle sur mes parents. L'idée qu'ils apprennent ça me rend malade. Je m'imagine qu'ils ne s'en remettront pas. Je crois que les viols, c'est vraiment rare et qu'avec la mort d'un enfant, c'est la pire des choses qu'on puisse annoncer à des parents. Mais mon oncle ne me laisse pas le choix. Si moi je ne peux pas, c'est lui qui le leur dira. L'annonce faite dans ma famille, la nouvelle se répand. Marion a été violée par Edouard et elle va porter plainte. Avec mon oncle, nous allons voir sa sœur. Maggie m'appelle ma petite Marion et me supplie. Il faut que ça reste dans la famille. Elle dit que, elle aussi. Puis elle dit que, c'est pas grave, qu'on s'en remet. Elle dit, regarde-moi, je vais bien. Et elle pleure beaucoup. Je lui demande qui l'a violée. Elle me répond, papa, et plus tard un autre gars. Sur le chemin du retour, je suis effondrée. Je pleure comme je n'avais jamais pleuré. Max, t'as entendu ? Elle aussi. Par ton père ? Putain, tu dis rien ? Mon oncle reste de marbre. C'est la première fois qu'elle en parle. Je suis stupéfaite. Autour de moi, d'autres ont été violés. Maggie, ma grand-mère, un oncle. Les langues se délient. Les adultes soudain se livrent à moi et ils le font pour la première fois. Ma parole est libératrice, mais pas seulement pour moi. Je vois soudain un sens très clair dans une procédure judiciaire. L'explosion des secrets familiaux, la sortie du déni, le coup d'arrêt de l'impunité, pour que dans cette famille que je crois plus malade que les autres, les viols et les incestes cessent. Quel beau programme. L'idée d'une plainte fracture ma famille. Deux clans se créent. Un oncle dit à mon père que si ça avait été sa fille, ça se serait réglé au fusil. Mes parents reçoivent une offre monétaire pour nous faire taire. C'est Maggie qui fait l'intermédiaire. Mai 2004, mes parents portent plainte, par courrier au procureur. Ils précisent qu'ils souhaiteraient que je ne sois pas auditionnée avant juillet, et ce pour me laisser passer le baccalauréat que tout le monde croit que je n'aurai pas. Juillet 2004, de justesse, j'ai mon bac. C'est mon tour de porter plainte. Je suis entendue par la brigade des mineurs. Je ne me souviens de rien, à part de dessiner une carte du jardin. J'indique le lieu du viol par une énorme croix et celui de la Vierge. Au coin de la feuille, je griffonne un œil. À cette époque, je dessine des yeux partout. À côté de ça, j'ai méchamment dégringolé. Je fume énormément, je suis constamment défoncée. En soirée, je bois trop, je me mets minable. Je baise avec des gars, toujours bourrés ou sous-produits. Mes trois copines, bien qu'elles soient au courant de l'événement, comprennent de moins en moins mon comportement. Face à ce qu'elle appelle « mes conduites à risque », ma mère pleure et blâme mon père de ne rien faire. Tous les week-ends, je suis de sortie. À mon retour au milieu de la nuit, systématiquement, elle m'attend et me signifie qu'elle n'a pas dormi. Avec ses yeux mouillés, elle me supplie de prendre soin de moi. Ça me fout la rage. Et puis un soir de teuf, je couche avec Bastien. Bastien, c'est le copain de Mariam. Le matin, je ne me souviens de rien, mais je suis bannie. Je n'ai plus d'amis. Bastien est pardonné. Avec mes parents, c'est de plus en plus compliqué. Mes sentiments sont emmêlés. D'abord, il y a la honte. La honte de ce que j'ai fait, de ce qui m'est arrivé. Je ne supporte pas l'idée qu'ils s'imaginent leur fille en train d'être violée. Je culpabilise de ce que je leur fais endurer.
Je me sens coupable. Mais de quoi, finalement ? Coupable d'avoir choisi la fille plutôt que la mort.
Et puis il y a la colère. Je suis exaspérée par leur volonté de m'aider qui se frotte à leur putain d'incapacité. Et pour finir, il y a la peur. J'ai peur qu'un jour le verdict tombe, qu'Edouard soit acquitté et qu'alors ils ne me croient plus et se détournent de moi. Eux et tous les autres. Quand j'entre aux Beaux-Arts à la rentrée d'après, je suis une boule d'angoisse. J'ai fui Brest et mes anciennes amies. Je suis envahie par l'idée d'un procès à venir qui est loin d'être là. À l'école, j'évite une réputation d'affreuse, mais je ne suis pas la seule. J'ai pas mal de copaines et surtout une amie avec qui je fais à peu près tout. Sortir, créer et faire la fête. En soirée, je finis très souvent par pleurer ou par coucher avec un gars qui ne m'aime pas. Le lendemain, je ne me rappelle généralement de rien. Je me fais souvent mal, je me coupe, je tombe. Je me cogne partout. Mes profs ne semblent pas inquiets, mes parents sont loin. Après la plainte, mes parents ont pris une avocate. Durant des mois, ils l'appellent et la rappellent, mais elle n'a jamais de nouvelles. Un jour, elle nous apprend que mon dossier est perdu. Oui, oui, il a disparu. Je sentais déjà mes vieux dépassés, ça finit de les achever. Courrier après courrier, la procédure est finalement relancée. De nombreuses personnes sont auditionnées. Parmi elles, il y a un témoignage clé. C'est celui de Jenny. Elle confirme le bar, l'alcool, le trop d'alcool. Elle confirme la voiture, la main d'Edouard sur ma cuisse, moi qui ne réagis pas. Elle confirme les pleurs, mon état de choc. Elle confirme tout, en fait. La confidence du viol, la chambre du frère, garder le secret. À ce propos, plus tard, Edouard dira « Je ne comprends pas pourquoi Jenny a témoigné contre moi. Elle était saoule et puis je la vois toujours régulièrement. J'ai même mangé avec elle récemment. » Ma cousine et moi, les premiers mois, on s'appelle quelquefois. Un jour, c'est sa mère qui décroche. Elle me dit que c'est fini, qu'elle ne veut plus jamais que je parle à Jenny. Lors d'une audition devant le juge d'instruction, Jenny change sa version. Outre le fait qu'elle n'est plus sûre de rien, elle dit « Depuis 4 ans, elle m'a gâché la vie. » Quelques mois après, ma plainte est classée. Malgré les témoins au bar, malgré la culotte, malgré le premier témoignage de Jenny, malgré l'appel à mon ami, malgré tout ça. En dépit de la persistance des accusations de la partie civile, par manque d'éléments objectifs et incontestables venant corroborer les déclarations de celle-ci, et face aux dénégations constantes du mis en examen, le procureur de la République conclut à un non-lieu. Comme dans 90% des cas, l'histoire aurait dû s'arrêter là. Mais mon oncle Max, qui est artiste, connaît un collectionneur qui, lui, est avocat. Et pas de la merde, celui-là. Il s'appelle Léon Lef Forster. Il a défendu le groupe Action Directe, Charles Pasqua, La République du Rwanda, Julien Drey ou DSK. Et oui, c'est comme ça. Avec Max, il passe un deal, ma défense contre des œuvres d'art. On est en 2006, Forster fait réouvrir mon dossier, l'enquête reprend. De temps en temps, je monte à Paris, rue de Châteaudun, au cabinet de mon avocat et de son associé Isabelle Duruflé. Pour les différentes auditions et pour le procès, ce sera elle qui plaidera. Le gars ne s'embarrasse pas avec des affaires comme ça. Pour me rassurer, Forster me dit que c'est plus facile d'être à ma place qu'à celle de celui qui m'a violée. Moi, je n'ai qu'à dire la vérité. Edouard, lui, il doit tout inventer. Il me dit qu'il faut que j'arrête d'être trop honnête, de dire que je ne suis pas sûre ou que je ne sais plus, même si c'est vrai. Pourtant, parfois, j'ai des doutes. J'ai peur d'avoir tout inventé. Un jour, c'est la confrontation. Il y a quelques mois, j'en ai déjà fait une avec Tobias. Edouard, depuis le viol, c'est la première fois que je le revois. Dans le tribunal, je suis terrorisée à l'idée de le croiser. Je n'ose même pas aller pisser. Je colle Isabelle Duruflé. À notre entrée dans le petit bureau, les chaises sont déjà disposées en ligne assez serrée. Entre Edouard et moi, nos avocates font barrière. Face à nous, il y a le juge d'instruction et la greffière. I lost my heart under the bridge. Évidemment, Edouard ment. Il maintient qu'il ne s'est rien passé, que j'ai dû fantasmer. Il m'excède et je m'énerve sur ma chaise. Mais il ne se doute pas qu'au fond, avec sa version à la con, il ne fait rien que de m'aider. Je préfère largement qu'il nie tout, plutôt qu'il dise que oui, mais que j'en avais envie. Et puis, il y a cette question du juge d'instruction. « Mademoiselle, vous avez certainement entendu parler de l'affaire Outreau. Que pensez-vous des jeunes filles qui dénoncent à tort des personnes pour abus sexuels et qui les plongent ainsi dans une profonde détresse ?» Je me dis que c'est évident, ce gars-là croit que je mens. Puis les questions s'enchaînent. Pour la énième fois, je répète le même récit. Enfin, pour clore l'audition, nous avons tous les deux droit à une même question. Si vous aviez une phrase à dire à votre cousin-cousine ici présent-présente, que lui diriez-vous ? Edouard répond « Regarde-moi, c'est tout. » Sérieux, il est tellement bidon. La greffière note que je me penche et le regarde. Pas lui, j'ai réussi. Depuis peu, j'ai un vrai petit ami et je commence doucement à me poser. Mais par moments, j'ai des crises. Je suis obsédée par l'idée qu'Edouard vienne se venger. Partout, j'ai peur de le croiser. Je me sens en totale insécurité et j'ai l'impression de devenir tarée, ce qui, a posteriori, n'est pas très loin d'être vrai. Un jour, devant mon appartement, il y a une caravane qui reste garée un peu trop longtemps. Et s'il était dedans et qu'il me surveillait avant de venir me buter? Nous sommes en mars 2009. Suite à de nombreux incidents de procédure ayant retardé sa convocation, Edouard est finalement mis en examen par le juge d'instruction. Des indices graves et concordants rendent vraisemblable qu'il ait pu participer comme auteur à la commission des faits. Sans déconner. Et puis vient l'heure de la reconstitution. À l'époque, la simple idée de passer en Normandie me fait baliser. En arrivant, l'allée du jardin est bondée. Il y a Edouard, les avocats, avocates, le procureur, le juge d'instruction, une greffière, des flics en veux-tu en voilà. Faut-il que je redise tout ? 6 années sont passées depuis les faits, le jardin a changé. Je ne me souviens pas précisément de là où j'ai été violée. Peut-être que j'ai imaginé cet endroit. Mon avocate grimace, je n'aurais pas dû dire ça. Puis c'est l'heure de la bande-son. Une voix de femme qui chiale résonne dans le jardin. D'abord tout bas. On me demande si c'est à cette intensité que je pleurais. Je ne sais plus. Les pleurs augmentent, palier par palier. L'idée, déterminer si ce soir-là, mes sanglots auraient pu être entendus par les invités qui dormaient. Quelle que soit la force du son, la réponse est non. Le retour est horrible. J'ai l'impression d'avoir merdé. Sur la route, je n'arrête pas de me retourner, j'ai peur qu'on soit suivi. La parano grandit. Je sais que cette famille est friquée, qu'elle a le bras long, des amis très cons et la chasse comme passion.